Bonjour à chacun, ça fait plaisir d'être là. Je vais essayer d'être un peu avec mon bras gauche, on va essayer de faire quelque chose de bien. Je vous souhaite vraiment la bienvenue en ce lieu, que Dieu puisse aussi vous bénir en ce moment. Nous allons vivre un culte un petit peu différent, avec les mêmes structures, mais dans l'ordre un peu différent, avec les annonces, suivies de l'offrande, la louange, la scène qui vont être ensemble et le message. Et nous terminerons par un moment de prière ensemble en unité. Je vous expliquerai un peu plus tard. Alors, pour commencer, je vais juste appeler Elisabeth. Un petit peu à l'envers.
Bonjour. Alors, les annonces, les activités. Mardi, prière communautaire pour toute l'église. Tout le monde est invité dans la salle du groupe de jeunes en bas. Jeudi 24, la rencontre du conseil. Vendredi 25, le catéchisme pour les ados de 12 à 15 ans. Si par hasard, il y en a qui arrivent maintenant dans l'église, qui n'ont pas commencé le catéchisme, mais qui ont envie de rejoindre, vous pouvez vous adresser à Philippe, ils seront toujours les bienvenus, même s'ils n'ont pas commencé tout de suite. Mardi 5 février, rencontre du fil d'argent, donc c'est pour les aînés, mais je crois qu'il n'y a pas d'âge minimum, hein, ceux qui sont intéressés ou qui ont envie de venir, pas de problème. Alors sur le thème, ce sera Guy Gentison, qui était pasteur à Nyon, fascinante Éthiopie. Après, il y a une petite collation. Et déjà réservé la date du dimanche 10 mars. On est très concernés par les enfants, la famille, donc il y aura une journée pour réfléchir où tout le monde sera invité, même si vous dites, oh, mais les enfants, c'est pas pour moi, je suis pas douée pour ça, mais il y en aura pour tout le monde. Donc, on veut réfléchir à comment construire la famille de Dieu. Donc, réservez déjà cette date, il y aura d'autres détails. Voilà, à part ça. Pour les nouvelles personnes qui sont encore pas habituées ou qui viennent voir comment ça se passe dans notre église, vous pouvez vous poser des questions à nos pasteurs, Philippe Anchaud, Claude Bécher. Et si vous désirez recevoir des informations, il y a aussi le conseil. Alors, vous ne connaissez peut-être pas tous les membres du conseil, mais sur le panneau, dans le foyer, il y a une photo avec les membres du conseil. Ça vous permet de voir, de les visualiser, de voir qui c'est. Et puis, il y a des formulaires comme ça. Bienvenue à l'Église évangélique de Mérin. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez recevoir les différentes informations, l'actualité, le programme. Il y en a aussi des programmes qui sont sur le présentoir. Mais si vous voulez recevoir les informations, vous pouvez vous inscrire sur ces papiers. Il y a aussi un petit feuillet comme ça, avec des informations. Donc, ils sont sur les présentoirs dans le foyer. Alors, si vous vous inscrivez pour recevoir, ça ne veut pas dire que vous êtes systématiquement membre de l'Église. Vous pouvez recevoir les informations et vous décidez après. Vous n'êtes pas, c'est pas, voilà, je m'inscris, donc je vais être membre de l'Église, je serai obligée. Non, pas du tout. Vous pouvez déjà vous inscrire. Comme ça, vous recevez les informations et vous pouvez voir. Sur une table dans le foyer, il y a des papiers avec des nouvelles de Roger et Dominique Sowell. Alors, si vous ne les avez pas reçus par Internet, vous pouvez les prendre sur la table. Une dernière information. Depuis quelques dimanches, vous avez remarqué qu'on est souvent très nombreux. Alors, ça nous fait très, très plaisir. Alors, les personnes qui sont à l'accueil rajoute des chaises derrière, mais on est obligé de garder un couloir libre de sécurité. Donc, quand vous arrivez, si vous voyez qu'il y a des places vides devant, essayez d'aller vous asseoir plutôt devant et de remplir les chaises au centre des rangées. Ça, c'est aussi de pas laisser trop de place vide comme ça, dans une place par-ci, une place par-là. Comme ça, ça permettra aux personnes qui sont à l'accueil de trouver plus facilement des places pour les personnes qui arrivent peut-être un peu après le début du culte. Et puis pour les parents qui arrivent avec des poussettes, s'ils peuvent avoir des places à l'arrière, c'est beaucoup plus confortable. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes habitué à aller derrière, vous arrivez systématiquement en retard pour être sûr d'avoir votre place. Non, mais occupez les places un peu à l'avant. Comme ça, ça facilitera la tâche des personnes qui sont à l'accueil. Et puis, c'est aussi pour chacun une forme d'accueillir les autres. Voilà. Merci.
Excuse-moi. Elle a dit une dernière annonce, mais c'était l'avant-dernière. Je vous représente à la Fondation La Prévoyante, vous le savez bien, et la Fondation m'a envoyé hier soir une annonce à vous transmettre. La Fondation gère des immeubles et diverses choses et ils cherchent un intendant résident avec un appartement de 6 pièces rénové, idéal pour une famille, un loyer de 2 200 par mois, 150 francs de charge, c'est très très correct. Avis aux amateurs, mais évidemment, il faut assumer l'intendance et il faut être résident intendant, c'est-à-dire qu'il y a des tâches d'intendance. Entrée en fonction mars 2019 ou à convenir, l'activité d'intendance est rémunérée, ça peut venir comme ça en déduction du loyer. J'ai 1000 affiches et les références pour s'y inscrire ou demander des renseignements, elles sont collées sur le fameux panneau. Saint-Pré, Anglapin.
C'est vers chez moi, ça. Je vais juste vous lire un texte dans Philippiens 4, 4 à 7. Soyez toujours dans la joie. En étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Que ce culte puisse être un temps de reconnaissance, d'unité, que Dieu puisse nous questionner, nous révéler ce qu'il a à nous dire ce matin. Et justement, prenons reconnaissance aussi avec, vous pouvez prendre, donner plutôt avec reconnaissance aussi, peut-être vos biens. Et on va passer à l'offrande maintenant, avec un chant qui nous rentrera dans ce temps de culte. Seigneur, je veux vraiment te remettre cette offrande. Merci pour cette joie qu'on peut aussi donner. C'est pour aussi la suite de ce que tu prévois pour notre Église. Vraiment bénis cet argent et bénis pour ceux qui vont aussi le distribuer, en prendre soin. Amen.
Bonjour, on va passer un temps de louange. Puis avant de commencer, j'avais envie de vous partager un petit texte qui se situe dans Colossiens 3, versets 15 à 16. Je lis dans la...
Je vais juste prier aussi pour les enfants qui vont aller aussi à l'école du dimanche. Merci Seigneur pour ce moment qu'on peut passer ensemble à te louer et t'adorer. Merci aussi pour tous ces enfants qui sont ici. Je te demande de les garder, de les bénir pendant ce moment où ils vont pouvoir écouter ta parole. Je te demande aussi de garder aussi tous les moniteurs aussi. Tu les renouvelles en ton nom. Amen. Alors, soyez bénis de votre moment. Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de Pâques avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus de ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. » Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit, prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain. Il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que son sang est versé pour vous. Parce que mon sang est versé pour vous.
Nous prions. Seigneur, ce n'est pas sans émotion que nous nous approchons de cette table. Ce n'est pas sans émotion que nous nous souvenons que toi, tu as donné ta vie pour nous. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, ton Père, qui est devenu notre Père. Pour que nous trouvions sens et épaisseur à notre vie. Une trajectoire aussi dans ta dépendance, avec la perspective lumineuse de partager un jour ce repas avec toi dans le royaume éternel. Pour ce matin, nous nous réjouissons de le partager dans le royaume qui est déjà là. Nous nous réjouissons de développer les valeurs de ce royaume. Nous nous réjouissons de te connaître comme Sauveur, Seigneur, et de nous connaître les uns et les autres comme frères et sœurs, comme membres du corps, et de te savoir à la tête de cette Église que tu bâtis dans le monde entier. Nous nous approchons avec de la joie dans le cœur. Nous nous approchons avec de la reconnaissance. Nous nous approchons avec la conscience de ne pas être au niveau, mais d'avoir un Dieu qui l'est et qui nous invite à nous approcher de cette table. On te dit ensemble, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen.
Philippe et moi, on aura la coupe. Et aussi au milieu du plateau, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a du jus de raisin dans les petites coupelles en rose.
Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. Avant de poursuivre notre réflexion cursive au travers du livre des Actes, une annonce très pratique pour éviter la ruine soudaine à l'un ou l'une d'entre vous, un ticket de parking daté de 10h02. Commençons à 10h02, a été trouvé dans cette salle tout à l'heure à l'entrée, donc vérifiez vos poches. Il n'y a pas de numéro de plaque, hein, mais 10h02, 20 du 1 2019, a été trouvé ici dans cette salle. Si jamais, n'hésitez pas, je vais probablement le laisser là. Mettons-nous au tout début de l'Église chrétienne. Mettons-nous au tout début de l'Église chrétienne. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Des milliers de personnes se sont converties. Les apôtres Pierre et Jean viennent de guérir un homme paralysé des membres inférieurs. Suite à ce miracle et à la prédication de l'évangile du salut, ils ont été traînés devant le grand tribunal qui, après bien des pressions, a fini par les relâcher. Mais le vent du boulet est passé tout près. Mettons-nous au tout début de l'Église chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, l'Église prie. L'Église prie. Comment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en reprenant une partie du passage que nous avons déjà survolé la semaine passée. Et je vous propose donc de faire la lecture dans le livre des Actes, au chapitre 4, les versets 23 à 31. Actes 4, les versets 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimement se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël, ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Aie en ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans ma Bible, en face de ce texte, je me suis permis d'inscrire un mot, là en bas. Le mot que je me suis permis d'inscrire, c'est le mot puissance. Le mot puissance. Le mot puissance qui correspond en particulier aux miracles qui sont mentionnés au verset 30. La puissance de Dieu. Le mot puissance qui correspond aussi à l'assurance des chrétiens dans les versets 29 et 31. Ils annoncent la parole avec assurance, avec puissance, le mot est le même. Et en même temps, au moment même où j'écris ce mot dans ma Bible comme commentaire personnel, je réalise que ce mot-là de puissance me fait un peu peur. D'abord parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement puissant. Je suis conscient de mes faiblesses. Je suis conscient de mes failles. Je suis si rarement à niveau. Comme vous, sans doute. Et puis, pour être honnête, je n'aime pas trop les gens qui semblent annexer la puissance de Dieu à leurs propres idées. Ces gens qui annexent, qui s'arrogent la puissance de Dieu pour leurs propres projets. Ces gens qui mettent de la puissance de Dieu là où, en fait, quand on regarde bien, on découvre qu'il y a surtout des stratégies humaines de pouvoir. La puissance, elle peut être prétexte au fanatisme, à l'autoritarisme, à quantité d'excès, la puissance. Mais, en même temps, l'idée que les chrétiens peuvent être forts en Dieu, l'idée que les chrétiens peuvent être forts avec Dieu, c'est une idée qui est bien dans la Bible, non ? Il faut donc qu'on regarde d'un peu plus près ce passage, où il est question tellement de puissance. Où donc est-elle, cette puissance ? Eh bien, il me semble que la piste principale, mais ce n'est pas la seule, on y reviendra, mais la piste principale, c'est que l'Église prie. L'Église prie. Qui prie ? L'Église prie. En tout cas, une partie de l'Église prie. Verset 24, on découvre une prière commune. Une prière que l'Église formule, nous dit le texte, d'un commun accord, d'un seul cœur. C'est donc une Église unie qui prie. En moins d'une minute, on arrive à lire cette prière qu'on trouve dans les versets 24 à 30. En moins d'une minute. Et je penche personnellement pour un résumé fidèle de tout un élan de prière qui a dû se faire à plusieurs et probablement sur un certain laps de temps, plus important même que ce que Luc, dans le livre des Actes, choisit de nous rapporter. En tous les cas, avant le temps de prière, il y a eu l'exposé où Pierre et Jean ont expliqué, nous dit le texte, ce qui s'est passé au tribunal. Ça a commencé par là. Peut-être que Pierre et Jean ont lu ou cité de mémoire des passages bibliques, comme le psaume 2 que nous retrouvons dans nos versets 25 à 26. Et pour finir, après ça, tout a été porté plus loin dans un élan de prière. Il est dit littéralement qu'ils élevèrent la voix vers Dieu. Dieu n'est pas sourd. Ils n'ont pas crié. Mais ils ont prié à haute voix, sans doute à plusieurs, et la prière dite à haute voix a été suivie par tout le monde. Tout le monde était concentré là-dessus. Et tout le monde a pu dire « Amen ». Non pas comme un ouf de soulagement, mais comme un grand oui à ce qui venait d'être prié. Ceux qui priaient à haute voix ne priaient donc pas pour eux-mêmes, mais ils priaient au nom de tous. Et tous s'associaient à cette prière. Maintenant, pourquoi prient-ils ? Pourquoi prient-ils ? Ils prient parce qu'ils se savent menacés. Ils prient parce qu'ils se savent menacés. Dans la ville, acte 4, verset 4, on trouve au moins 5000 chrétiens, ce qui n'est pas rien. Mais dans la salle où Pierre et Jean se tiennent et rapportent ce qui vient de leur arriver, ils sont probablement quelques dizaines. Et en face de cette dizaine, allez, centaines de chrétiens, il y a une coalition. Le texte nous parle de cette coalition, une coalition qui a déjà condamné Jésus à mort. Verset 27. Le gouverneur romain, Ponce Pilate, le roi de Galilée, Hérode Antipas, et les 70 personnalités religieuses qui siègent au Sanhédrin. Une coalition, l'épée et le goupillon, si vous voulez. Où se trouvent les gros bataillons ? Où se trouve l'argent ? Où se trouve la crédibilité ? Où se trouve l'autorité ? Où se trouve la puissance ? Eh bien, pas dans l'Église. Pas dans l'Église. L'Église prie parce qu'elle se sent faible. Ses responsables viennent d'avoir des ennuis avec la justice. Par la suite, Étienne sera lapidé. Les chrétiens seront obligés de fuir Jérusalem. Pierre sera emprisonné, Jacques sera décapité. Les difficultés ne font que commencer, sans parler même des difficultés internes à l'Église qui vont apparaître. Où donc est la puissance ? La puissance n'est pas dans l'Église. La puissance se manifeste dans la faiblesse d'une communauté minoritaire et persécutée. Parce qu'il ne s'agit pas de la puissance de la communauté, il s'agit de la puissance de Dieu, verset 28. La puissance de Dieu. Pour qui prie-t-il ? Pour qui prie-t-il ? La première demande des chrétiens, on la trouve au verset 29. Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est qui tes serviteurs ? Donne à tes serviteurs. Alors, je pense qu'on pourrait dire ici qu'il s'agit des apôtres, ceux qui viennent d'être arrêtés, menacés. Ils ont un rôle particulier dans l'annonce de la parole de Dieu. Et selon l'apôtre Paul, signes et miracles accompagnaient leur ministère d'une façon particulière. Il dit aux Corinthiens, « Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous, une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges et des actes extraordinaires. » Mais, à la fin de notre passage, comme réponse à la prière « Donne à tes serviteurs », ce que nous voyons, c'est que tous sont remplis de l'Esprit. C'est que tous annoncent la parole avec assurance. C'était justement l'objet de leur prière. Donne à tes serviteurs. Réponse à la prière, tous. Il me semble donc qu'ici, il faut voir dans l'expression « tes serviteurs » un sémitisme, c'est-à-dire une façon de parler qui vient de l'araméen ou de l'hébreu. Et vous qui connaissez un peu l'Ancien Testament, vous connaissez ce genre de choses. Par exemple, quand ils s'adressent à un roi ou à Dieu, les gens disent « ta servante, ton serviteur ». Et ils le disent au lieu de dire « je » ou « moi ». Ici donc, à mon sens, quand les gens disent « donne à tes serviteurs », c'est pour dire « donne-nous ». À nous, tous et toutes. Et Luc, qui écrit dans un grec parfait, choisit de garder des formes sémitiques quand il reproduit tout ou partie de ce discours. Donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les chrétiens prient pour l'Église. Les apôtres sont le fer de lance de l'Église. Il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas les seuls acteurs. Ce n'est pas les seuls acteurs. Et quand les chrétiens prient ici, ils ne distinguent pas entre les apôtres et le reste de l'Église. Ils ne distinguent pas entre le clergé et les fidèles. C'est tous ensemble qu'ils prient. Donne-nous la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ce qui me semble être là une vraie ouverture sur ce que nous appelons aujourd'hui encore, avec bonheur, le sacerdoce universel. Le fait que nous tous et toutes, chrétiens et chrétiennes, soyons également concernés par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le rayonnement de l'Église, la croissance de l'Évangile, cela nous concerne tous et toutes, hommes et femmes, clergés ou pas, professionnels ou pas, mais chrétiens assurément. Nous sommes concernés. Il me semble que nous devons prendre en compte encore le mot « assurance » dans ce texte, qui revient au verset 29, au verset 31. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a parmi nous des gens qui sont naturellement timides. Et puis il y en a d'autres parmi nous qui sont naturellement sûrs d'eux, sûrs d'elles. Mais ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est du surnaturel ici. C'est en réponse à la prière. C'est parce qu'ils sont comme tout à nouveau remplis du Saint-Esprit qu'ils annoncent avec assurance la parole de Dieu. Les apparences sont trompeuses. Vous connaissez ce chant, hein ? Chanter ne suffit pas. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. S'il y avait quelqu'un qui annonçait la parole de Dieu avec puissance, eh bien, c'était bien l'apôtre Paul. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit de lui-même, l'apôtre Paul ? Quand il annonçait l'évangile à Corinthe, il dit ceci : « Quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. » 1 Corinthiens 2, verset 3. L'apôtre Paul, faible et craintif. Il dit encore, il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Voilà ce que l'apôtre Paul ressentait, tout du moins par moment. Quelle impression faisait-il sur ses auditeurs ? 2 Corinthiens 10, verset 10. Ces lettres, dit-on, sont sévères et énergiques. Mais lorsqu'il est là, c'est un faible. Et sa parole ne mérite pas l'attention. C'est un faible. Voilà ce que les chrétiens pensaient de l'apôtre Paul. C'est un faible. Ses paroles ne méritent pas l'attention. Le monde considérait l'évangile comme un message de faiblesse. Et certains chrétiens méprisaient même l'apôtre Paul de la même manière. C'est un faible. Comment peut-on parler d'assurance ? Comment peut-on parler de puissance dans ces conditions-là ? Eh bien, c'est qu'à travers nous, nous qui sommes fragiles, nous qui sommes timides, nous qui sommes limités, nous qui balbutions, nous qui hésitons, à travers nous, par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Je cite encore l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, verset 7. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et pas notre propre capacité. Nous sommes des incapables. Il y a besoin que la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de tous et toutes. Ce n'est pas nous. Les apparences sont trompeuses. Ressentir de la crainte, c'est pas grave, les amis. Bafouiller, c'est pas grave. C'est là le paradoxe de l'action de l'esprit, et l'apôtre Paul le savait bien. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, je ne compte pas sur moi. Je compte sur mon Dieu. Que Dieu nous donne à tous, à toutes, d'annoncer sa parole avec assurance, avec nos limites, sans nous laisser décourager par notre timidité ou par ce que les gens peuvent penser de nous. Le travail de fond appartient à Dieu. Et dans notre texte, les chrétiens prient donc pour avoir de l'audace, malgré les menaces, de l'audace. Mais ce n'est pas tout. Voici ce qu'ils disent, verset 30. « Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Qu'il y ait des miracles !» On ne manque pas d'air au premier siècle. Hein. Le premier sujet de prière concerne l'assurance dans l'annonce de la parole. Le deuxième sujet de prière concerne les signes de la puissance de Dieu. Ces signes de la puissance de Dieu seront accomplis au nom de Jésus, ce qui veut dire que ces signes doivent être forcément en accord et en communion avec ce que lui, le Messie, a fait et ferait aujourd'hui. C'est Dieu en Christ, par l'Esprit Saint, qui agit. Ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes. Ce sont des signes, c'est-à-dire que ce sont des choses que les gens peuvent voir. Ce sont des choses qui pointent vers Christ, comme les miracles qu'il a accomplis quand il était physiquement présent sur terre. Il confirme que Jésus est le Fils de Dieu, sans forcer les gens de mauvaise volonté de croire malgré eux. Les miracles. J'entends parfois dire que Dieu a renoncé à agir comme cela de nos jours. J'entends parfois dire que les miracles, c'était bon pour les premiers temps de l'Église, quand rien n'était encore écrit et qu'il fallait prouver que ce qui était dit était vrai. J'entends parfois dire que les miracles, c'était nécessaire juste pour cette époque-là, que ça s'est arrêté avec cette époque-là. Et j'entends aussi dire autre chose, à l'opposé, que Dieu serait obligé d'agir encore comme cela de nos jours. Que ce serait nécessaire pour que notre évangélisation soit puissante et complète. Et certains ne sont pas trop regardants quant à la véracité des témoignages à ce sujet. Les prophètes Élie et Élisée ont accompli de très nombreux miracles. Et Jean-Baptiste ? Pas un seul. Et pourtant, il est décrit comme un prophète puissant. Et pourtant, il a vu des foules se convertir. Mais il n'a pas accompli un seul miracle. Jean 10, verset 41. Dire que tout ministère puissant doit être obligatoirement accompagné de miracles, c'est faux. C'est faux. Tout comme il est faux de dire que Dieu ne peut rien faire de la sorte de nos jours. Dans la Bible et dans l'histoire, il y a des périodes, on pourrait presque dire des siècles, où les miracles authentiques sont rares. Et puis il y a d'autres périodes, parfois très courtes, où ces miracles sont nombreux. Certaines églises qui ont vu beaucoup de miracles n'en voient pratiquement plus aujourd'hui. Tout cela dépend de la souveraineté de Dieu, qui donne ou qui ne donne pas selon son bon plaisir. Alors nous, de notre côté, comment est-ce que nous allons prier ? Eh bien, nous allons prier pour que notre ami guérisse. Nous allons prier pour que notre nièce, si rebelle à Dieu, se convertisse. Nous allons prier pour que telle église sur le déclin revive. Nous allons prier pour que nos frères et sœurs en butte à la persécution, pas si loin de chez nous, soient protégés, gardés, renouvelés. Nous allons prier le temps qu'il faut, sans jamais dicter à Dieu sa conduite, mais en mettant en avant ce que nous pouvons imaginer de mieux, et pour les gens, et pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour des miracles à Mérin, notamment pour que des gens se tournent vers Dieu, pour que notre Église reste unie, pour qu'elle reste un flambeau, pour qu'elle soit un panneau indicateur dans la cité que nous voulons rejoindre. Parlez de signes, si des personnes changent de vie. Vous parlez de signes, si des dons affluent, si des services sont mis en route. Vous parlez d'un signe, si la rue du Bournou voit un chantier démarrer. Et cela, sans parler d'éventuelles guérisons. Gloire à Dieu. Quel témoignage. Je reviens à notre livre des Actes pour évoquer un tout dernier signe, un autre témoignage puissant, le martyr. Étienne au chapitre 6, Jacques au chapitre 12, en 177 à Lyon, une jeune fille de 15 ans, blondine, donnée en pâturage aux bêtes sauvages. Raymond Lull en Algérie, au XIVe siècle, Jean Hus à Bâle au XVe siècle, Blaurock, Grebel, Mentz au XVIe siècle, Bonhoeffer au XXe siècle. De nos jours, de nombreux chrétiens anonymes au Moyen-Orient, au Nigeria, en Iran, en Corée du Nord, le martyr. Tenir jusqu'au bout, être témoin jusqu'au bout. Ça aussi, ça relève du miracle. Marie Durand, résister jusqu'au bout, un miracle. Comment peut-on résister comme ça? J'en serais incapable. Le martyr, tenir jusqu'au bout, un autre signe puissant. Et c'est ainsi que Hébreux 11 célèbre ceux qui ont été délivrés par miracle. Et ceux qui, sans miracle, ont gardé la foi de leurs ancêtres. Je n'ose pas prier pour que nous soyons des signes de cet ordre-là. Mais qui sait comment Dieu va se servir de nous? Qui sait? Je conclus. Nous prions pour de l'audace dans l'annonce de la parole de Dieu. Nous prions pour des miracles. Nous prions pour que la puissance de Dieu se manifeste, pas la nôtre, celle de Dieu. Et si la terre tremble, comme dans Actes 4, eh bien nous ne serons pas surpris, parce que la puissance de Dieu se sera manifestée. Amen.
Merci beaucoup, Philippe. Je ne sais pas ce que ça vous fait, moi ça me parle beaucoup, tous ces messages. Je crois que Dieu, il travaille notre cœur. J'avais vraiment le souhait, ce matin, suite au message de Philippe, avec ce qu'il nous a partagé, d'être une église qui prie, une église où on peut être unis en son nom. Et j'avais envie qu'on puisse prendre justement un bon temps de prière, qu'on puisse se mettre en petit groupe, retournez-vous, 5 personnes comme ça, mais c'est égal, et qu'on puisse prier vraiment sur notre église, pour notre église, la reconnaissance d'être ici, la reconnaissance d'avoir un bâtiment comme ça, si la reconnaissance d'être au centre de ce village. Prions aussi pour nos enfants. Je crois que c'est important. Il y a des défis qui viennent, il y a différents projets dans notre église. Si j'ai des enfants, Je pense que c'est important qu'on puisse prier pour eux. On a encore des différents projets, comme la chapelle. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chapelle? Prions pour ça. Et le gros sujet, c'est rejoindre mes reins. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mot? Qu'est-ce qu'on fait avec ce mot de rejoindre mes reins? Prions pour notre quartier qui est ici, pour ces gens qui sont là. Prions pour... Il y aurait tellement de choses à faire. Je trouvais vraiment important et intéressant qu'on puisse le prendre maintenant, tous ensemble, en église. Et moi, je crois que Dieu va faire quelque chose de grand ici. Et encore dans ce qu'il partage, il y a une puissance, il y a quelque chose. Dieu est grand, Dieu est puissant, il est fort. Et à travers nos prières aussi, il nous entend, il nous écoute. Et il va faire quelque chose. Je ne vais pas m'attarder, mais j'avais vraiment ce souhait qu'on puisse prier ensemble maintenant. Alors, je vous invite un petit moment à prier. Retournez-vous, prenez un temps ensemble sur ces sujets. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. Mais je pense que c'est important et Dieu, il est reconnaissant, il voit ça. Et je terminerai ce moment aussi en prière. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Que ce soit une prière et qu'on puisse chanter ce merveilleux chant, une seule Église.
Du même créateur, le même souffle.
Je vous invite à rester debout. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont rendu par leur service ce culte possible, de l'accueil à la technique, l'équipe musicale, Johnny qui a préparé les éléments de la scène, ouvert et fermé les locaux tout à l'heure, et les équipes des potes du dimanche. Si vous avez apprécié ce temps de prière, si vous souhaitez le prolonger, si vous souhaitez qu'un pasteur prie avec vous, Claude et moi, nous sommes à votre disposition, mais n'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, simplement à continuer à prier les uns avec les autres. Je souhaite nous envoyer avec cette parole de bénédiction adaptée, la fin d'acte 4. Maintenant, Seigneur, vois où nous en sommes. Et donne à tes serviteurs et à tes servantes la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Remplis-nous tous et toutes du Saint-Esprit pour annoncer ta parole avec assurance. Amen. Allez en paix. Bonne semaine.